sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en ce beau jeudi soir. Salut Max!
Salut!
Belle journée!
Excellente journée!
Yes!
Une des plus belles de ma vie, je pense.
C'est vrai?
Non.
Ok.
Mais c'est une belle journée pareil.
Bon, on va dire comme Bob Sonnette, c'est la plus belle journée de ma vie!
Comment était la tienne?
Très bien, très bien. Mouvement, ben beaucoup de va-et-vient, là, de lift, hein, je sais. J'étais une maman taxi aujourd'hui. Donc, fiston avait un stage, trimballer les trucs et tout. Mais très, très belle journée. Je réalise, en fait, que de travailler de soir, c'est un privilège. C'est parfait pour moi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bien, de jour, je peux voir mon amoureux. Je peux travailler sur mes autres trucs. Sur l'heure du souper, je suis avec mon garçon. Puis là, tard comme ça, le soir, je travaille.
C'est-tu pas beau, la vie?
C'est magnifique.
Ah oui, Bobby Sonnette avait raison.
J'adore ça. Mesdames et messieurs, d'où est-ce que vous nous écoutez? Le 418-670-9098 pour interagir avec nous ou avec nos invités ce soir, puisqu'on a deux magnifiques invités à vous présenter. Et juste avant, j'aimerais revenir sur le TDA. Aujourd'hui, je cherchais mon téléphone.
OK, attends un peu. Ah.
Les aventures TDAH de Mel.
Vas-y, raconte-nous ça.
Je cherchais mon téléphone et je l'avais comme ça avec mon phone loop accroché après mon doigt.
Donc, t'avais le téléphone dans tes mains?
J'avais mon téléphone dans mes mains.
Puis tu le cherchais?
Je cherchais.
Ça a duré combien de temps, cette aventure-là?
Une petite 2 minutes jusqu'à ce que mon fils me dise « Maman, tu l'as dans tes mains. » Une chance qu'il était là.
Mais entre moi puis toi et puis le poêle à bois, là, quand ça t'arrive puis tu réalises que tu l'as dans les mains, tout comme les autres aventures de ton
TDAH... Je regarde mon fils et je lui dis « Tu retiens pas du voisin.
» Ton fils aussi, de même?
Oh. Mais lui, il n'y a pas le H ni le I.
OK.
Il est juste TDA.
Il est-tu sous médication?
Oui, depuis peu, parce que j'ai attendu longtemps avant d'y redonner, sachant l'effet que ça faisait. Mais c'est quand même très bénéfique, là. Je dois l'avouer.
T'as vu une différence?
Vraiment. C'est de trouver la bonne molécule qui est difficile. Une fois que t'as trouvé la bonne molécule, c'est parfait, mais d'en arriver là, tu sais, lui, il prend pas la même molécule que moi. Donc, puis moi, je prends même pas la dose complète de ce que les médecins me proposent parce que ce serait trop fort pour moi. Je me sens pas bien. Quand je le prends. Donc,
Sens pas bien, tu te sens trop déconnecté toi-même? Parce que à certains niveaux, c'est des amphétamines légales, c'est une sorte d'amphétamine légale, ce que les médecins prescrivent pour les TDAH.
Là, mais exact.
Dans la plupart des cas, donc, on a l'impression qu'on est plus concentré, mais chez certaines personnes, comme tu le dis, les molécules procurent l'effet inverse. Il y en a qui se renferment, il y en a qui se sentent pas bien, il y en a qui se sentent pas connectés avec
eux-mêmes. Moi, c'est que ça me rend hyper focus, mais je me sens pas moi-même, en fait. Je me sens un peu dénaturée. Donc, je le prends vraiment quand j'en ai besoin ou très tôt, au début de la soirée, pour que ça fasse effet comme ça là, vers la fin de la soirée.
Ouais.
Pour pas que je sois trop focus non plus, parce que sinon, ça me dénature vraiment. Là.
Mais tu sais ce que tu as besoin pour te sentir toi-même?
De quoi j'ai besoin pour me sentir moi-même?
Une Snickers. OK.
OK.
On pense à autre chose.
On va tout de suite rejoindre nos invités, Alex et Julie, qui vivent une histoire d'amour peu conventionnelle, disons-le. Ils vont s'ouvrir à nous ce soir et j'en suis vraiment ravie. La vie a vraiment voulu, en fait, qu'on les ait avec nous puisqu'une amie m'a parlé d'eux, m'a envoyé une photo de couple, une photo boudoir de leur couple, de leur magnifique couple. Elle m'a dit « Hey, tu devrais tellement leur parler, leur histoire est extraordinaire, là, là. » Et Francis, qui est venu nous parler de boudoir cette semaine, c'est lui qui a fait le shooting de ces deux magnifiques personnes. Et j'ai dit, Francis, penses-tu qu'ils viendraient dans notre show nous parler de leur histoire d'amour? Et il a dit, bien sûrement. Donc, il nous a mis en contact et vous êtes là ce soir. Wow, merci. Bonsoir, Alex et Julie.
Allô.
Allô,
allô. Allô. Donc, Alex, t'es un homme trans.
Ouais.
Mettant que t'as transitionné, est-ce qu'on dit encore homme trans ou t'es un homme maintenant?
Pour moi, c'est un homme, là.
T'es un homme.
Ouais. Il y en a qui vont préférer dire homme trans aussi, mais pour moi.
Oui, c'est ça. Il y en a qui préfèrent garder le trans. Mais on dirait que je me dis, à partir du moment où tu décides d'être un homme et que ton but, c'est de devenir une femme, une fois que tu as transitionné, on devrait laisser le trans en arrière. Je veux dire, t'es devenu une femme ou t'es devenu un homme, tu sais.
Ouais, mais c'est un peu propre à chacun, je pense. C'est comme
c'est ça, hein?
Le ressentent, là. C'est un peu difficile à expliquer parce que je sais que chaque personne va le ressentir d'une manière différente. Fait que,
ouais,
c'est
exact.
Je peux pas parler pour les autres, je peux juste parler pour moi. Puis en ce moment, pour moi, j'ai pas nécessaire de dire que je suis trans.
C'est ça. Donc toi, t'es un homme, puis c'est ça.
Au même titre, on a des amis. Au même titre, on a des amis que pour eux, c'est extrêmement important de le dire.
OK.
Parce que ça fait partie de leur chemin puis de leur vie. Mais tu sais, c'est ça, je pense, comme il dit, c'est propre à chacun. Là.
Exact. Et là, vous êtes en couple depuis, je pense, à peu près un an. Vous avez commencé à vous...
Ouais, on a eu une petite période où on s'est laissé. Moi, je travaillais sur la route, puis ça avait été vraiment difficile. Là. Fait qu'on a eu quelques mois qu'on s'est séparés. Mais mettons, de notre première... La dernière, quand on s'était mis en couple la première fois, c'était le 4 juin l'année dernière. Fait que ça va faire un an. Puis là, il y a comme eu un 2-3 mois là, fait qu'on s'était, qu'on n'a pas été ensemble.
Et vous vous êtes rencontrés au Drag.
Mm-hmm.
Vous travaillez là-bas.
Oui.
D'ailleurs, ils offrent de merveilleux événements. Et on parlait justement hors d'onde d'événements de drag queen, puisque tu es, toi, Julie, drag queen.
Oui, exactement.
On a tendance à penser que les femmes qui font de la drague, ben c'est du drag ou de la drague?
De la drague, oui.
De la drague, ce sont des drag kings et les hommes des drag queens. Mais toi, c'est une drag queen. C'est le fait vraiment de se déguiser, en fait, de
ouais, exactement.
D'incarner...
Moi, je rentrais au drag plus en burlesque, à la base. Je faisais plus style effeuillage. Puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde, j'aimerais ça être un gars pour pouvoir être une drag queen. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ben, tu peux l'être. Puis ils ont un merveilleux événement une fois par année qui s'appelle Drag Wars. C'est une compétition de... Dans le fond, ils appellent ça l'école des dragues, là.
Oui.
Puis il y a comme des mentors, puis ils prennent sur leur aile, puis tout ça. Puis ça a été là que j'ai vraiment pu apprendre à faire les maquillages, à faire les perruques, tout ça. Puis c'est là pour moi que ça a vraiment... que j'ai commencé, dans le fond.
Et vous étiez à l'événement de drag queen présenté par la NSPW la semaine dernière.
Oui.
Je devais y être. Finalement, j'y étais pas, mais mon amoureux luttait là-bas aussi. Hey, quel show!
Oui, c'était vraiment nice.
C'était quelque chose, vraiment, l'an prochain, tout le monde, allez-y, là, ça vaut vraiment la peine. Il y a Barbada aussi qui était au Diamant. Récemment,
oui, avec,
il y avait
Dirty
un
Laundry.
Combat. Oui, c'est vrai, oui, absolument.
Oh, c'était-tu d'autres choses dont tu parlais?
Le Diamant, c'est un autre combat qu'il y avait comme la semaine avant. Mais c'est ça, donc ça, c'est vraiment rassembleur. C'est inclusif, rassembleur. Moi, j'adore ça.
Tellement.
Les shows de drague. Toi-même, Max, je pense que tu parlais d'un show de drague que tu avais été auquel tu avais assisté.
Ouais, j'étais allé une fois avec ma blonde. Ma blonde m'avait traîné là avec un de ses amis. Puis, forcé d'admettre que c'était une belle soirée.
Oui.
Du fun, le show, c'est spectaculaire.
Ben, écoute,
ça sac sur le stage. J'ai fait des stepettes.
Ouais.
Pour vrai, avant de rentrer là, j'avais des petits préjugés. Puis, je pense que ben, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais rendu là, les préjugés ont tombé à terre.
Tout le
vraiment,
monde est venu.
Ah, puis c'était vraiment une belle soirée. Sincèrement, ça me dangerait pas d'y retourner.
Oui, vraiment. Mais on ira un soir en finissant.
Allons-y!
Ah, sinon, on venait les matins au brunch.
C'est vrai, il y a des brunchs de drag queen.
Oui.
C'est festif le matin. C'est très drôle, ça.
Oui, Mimosa Volonté, toute, là. Un
génial.
Bon show.
Wow!
Ça peut faire mal un peu.
Oui, c'est ça, tu sors de là un peu. tu restes là jusqu'au soir.
C'est ça, c'est festif.
Donc, le drag qui est situé sur la rue Saint-Jean, donc plusieurs le connaissent déjà. Puis, c'est une des places à Québec où on peut vraiment danser comme dans le temps, là. Où il y a encore une grosse piste de danse, le fun, puis super.
Ouais, on a deux dance floors, puis les samedis, c'est les deux pistes de danse ouvertes, puis tu sais, c'est ça, c'est nos grosses soirées. Sinon, le vendredi, il y a une piste de danse aussi, DJ, donc c'est ça. C'est une place que tu peux. Tu peux trouver un endroit pour pouvoir faire le party assez solide.
Yes!
Et puis il y a du monde à côté, hein?
Oui! C'est pas que tu as des gens homosexuels, bisexuels.
Non, il y a du monde de tout acabit.
Plus, c'est vraiment de tout. Là. Moi, je le vois sur
scène. C'est très inclusif.
Puis c'est rendu avec beaucoup, tu sais. Nous autres, on rit, mais c'est rendu plein d'hétéros aussi, là. Tu sais, c'est tout le monde.
On va parler de votre rencontre. En fait, toi, lorsque tu as rencontré Alex, tu étais déjà un homme, finalement, parce que ça fait 3 ans que tu as entrepris les démarches, l'hormonothérapie.
Ouais.
Et là, t'en es où dans ta transition, en fait? Est-ce que c'est complété? Est-ce que t'en es où dans tout ce cheminement-là?
Mais donc, pour bien répondre à ta question, tu sais, complété, c'est un mot qui est assez large parce que chacun va décider de où
c'est quoi sa limite?
Ouais, c'est où sa transition veut se terminer. Fait qu'il y en a qui prendront même pas d'hormones. Il y en a qui, tu sais, ça va être seulement sur le plan social, donc d'en parler... mettons, aux gens autour.
Oui.
Il y a d'autres qui vont rentrer dans le médical. Donc, tu sais, de avoir justement hormones, opérations, peu importe. Puis, tu sais, le légal aussi qui vient avec tous les changements de nom. Donc, c'est vraiment propre à chacun ou que ta transition se complète ou jusqu'où toi tu veux aller. Tu sais, pour moi, je trouve qu'en ce moment, j'ai été assez loin. Je viens tout juste de me faire. on pourrait dire pas charcuter, là, mais tu sais, je viens d'avoir mon hystérectomie. Donc, tu sais, ça fait 3 semaines. Puis, pour l'instant, c'est assez, là. C'est.
Et là, tu as subi les restectomies. Je sais que vous vouliez quand même éventuellement fonder une famille. Donc, est-ce que tu serais la mère porteuse à ce moment-là ou vous allez...
Oui, nous, ce qu'on veut, c'est que moi, je porte. C'est tel un couple hétérosexuel, dans le fond, que c'est la femme qui porte. quand on s'est rencontrés, il commençait à penser à s'il voulait faire l'hystérectomie ou non. Puis là, c'est ça, il y a 3 semaines, c'était le go.
Ouais. J'avais l'occasion quand même de pouvoir garder mes ovules et tout, mais j'ai juste...
Attends, ça fait 3 semaines que tu as été opérée?
Ouais.
Mm-hmm. Oh! fait que c'est pas une longue convalescence.
Ah oh, oui.
Ouais, oui.
Oh, OK.
Je peux juste pas faire grand-chose encore en ce moment, tu sais.
Ah, OK. Ouais.
Donc, l'hystérectomie, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est l'opération dans laquelle on enlève l'utérus à part entière.
Exactement. Ben, tu peux l'avoir totale ou partielle. Moi, j'ai déjà décidé de tout enlever, donc plus d'ovules, plus d'utérus, rien.
Est-ce que pour toi, c'est une façon de mettre un frein à la féminité qui t'habitait encore?
Non, ben tu sais, je me suis juste dit, tant qu'elle allait jouer là, une fois, enlever tout. Genre, j'ai pas envie de comme...
Puis j'imagine que ça aide aussi au niveau de la prise d'hormones. Il y a comme plus rien qui va venir comme... Comment dire? Contrer les effets. Parce que veux pas, tu prends la testostérone. Si en plus, il y a une continuité d'estrogène qui continue d'être sécrétée et tout, ben là, il y a plus rien là,
non,
qui va
ça,
se...
Non, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide encore aussi okay. au niveau de la transition. C'est sûr que je connais pas encore tous les effets qui vont venir avec. Là.
Ouais.
Mais c'est sûr que ça donne un petit boost encore de plus.
OK. Ouais. Puis au niveau de la sexualité, est-ce que tu avais l'intention éventuellement d'aller faire la grande opération, c'est-à-dire d'aller faire la transition au niveau vaginal aussi, ou tu gardes ça pour tes bains de même?
Pas pour l'instant.
Pour ta sensation, c'est parfait
ouais,
ça.
Pas pour l'instant. Je suis pas prêt à mettre ma vie sexuelle à risque en ce moment. Je suis. Bon, tu sais, il y en a qui vont à fond, puis je. C'est vraiment, comme j'ai dit tantôt aussi, c'est propre à chacun. Mais pour moi, j'ai comme peur qu'il y ait trop de risques encore. Donc, j'aime mieux laisser un peu plus de temps à ce que ça devienne mieux au niveau médical, peut-être, puis comme être plus sûr à 100% de vouloir le faire, puis qu'il n'y ait pas trop de
risques. Risque, il y a toujours des risques associés à des chirurgies. Hein?
On dirait que celle-là, je suis comme pas trop envie de le prendre. Fait que...
Donc, toi, c'était vraiment dans ton être, en fait. Tu sentais que tu n'étais pas, que tu n'étais pas une femme, malgré que tu gardes ta partie génitale. Tu gardes ton vagin, mais à l'intérieur de toi, tu sentais vraiment que tu n'étais pas dans le bon corps quand même. Tu avais une mentalité d'homme. À partir de quand est-ce que tu as senti que tu étais attiré par les femmes? Et à partir de quand est-ce que tu as senti que tu n'étais pas dans le bon corps?
Peut-être avec toi, je pense que j'avais genre 5 ans, puis je demandais à ma mère si mon pénis allait pousser. Moi, j'étais je me faisais écœurer. J'avais le petit gars manqué de la cour d'école parce qu'il n'y avait pas question que je porte des robes. Là. Je portais des boxeurs, puis... J'allais dans la section des gars pour m'habiller. Puis ma mère a toujours été très ouverte à ça. Elle me laissait vraiment faire ce que je voulais. Puis, tu sais, après ça...
Une chance! Hey.
Ouais.
Non, mais il y a des parents là, qui auraient... qui t'auraient convaincu. Là, tu vas porter du rose.
Une mère merveilleuse.
Wow!
Pour elle, là.
OK.
Mais, tu sais, c'est ça. Puis après ça, la puberté est quand même arrivée. Puis, il veut pas, ben... changer un peu à ce niveau-là. Ma mère m'a quand même encouragé à comme... C'est ben là, c'est les soutiens-gorge, les ci, les ça. Fait que j'ai comme changé un peu mon mode vestimentaire en rentrant au secondaire parce que je voulais pas me faire non plus trop intimider. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai même fait mon bal définissant, tu sais, en robe. Là. Tu sais, je veux dire, c'était. Je le faisais plus parce que c'était la société qui me l'imposait que genre moi qui le voulais.
Hey.
Ouais.
OK.
Mais c'est ça.
Et avais-tu du trait féminin quand même ou c'était.
Quand même, oui.
OK.
Mais c'est ça, c'est plus genre. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas un. C'est pas, mettons, comment je pourrais dire ça? Ils sont pas trop surpris, mettons, que j'ai été jusqu'à là, mettons, dans ma vie.
OK.
Puis après ça, ben, tu sais, cégep, j'ai plus. C'est là que j'ai commencé à vraiment plus me poser des questions, à savoir, tu sais, niveau identité, parce que, tu sais, j'avais quand même. J'étais ouvert, mettons, de mon orientation sexuelle au secondaire, que j'étais attiré envers les femmes. OK, pour répondre à ta question de tantôt, tu sais, secondaire 3-4, j'avais une blonde. J'ai fait ça. Puis ça a continué ainsi de suite, mais après ça. C'est vraiment au cégep que j'ai vraiment commencé à me poser des questions, à savoir comme là, il y a de quoi de plus qui va pas, genre, puis c'est plus loin que juste mon orientation. J'ai commencé à être, à travailler pour le Gris Chaudière-Appalaches. J'ai eu des, l'occasion de pouvoir mettre des mots sur c'est quoi une personne trans, puis de faire comme, c'est ça que je suis. Là.
Parce que là, on parle d'il y a une dizaine d'années, donc on commence.
2017-2018, j'ai commencé vraiment à me poser des grosses questions. Là.
Ça commençait à peine à être moins tabou un peu, mais.
Ouais,
quand
on dirait que je sais pas si, mettons, à Québec, on entendait plus parler, mais tu sais, moi, à Saint-Georges, on dirait que je sais pas, j'en entendais un petit peu moins parler dans les. Tu sais, mettons, dans les écoles, on entendait beaucoup, tu sais, l'orientation sexuelle, mais un petit peu moins d'identité de genre. Donc, j'avais pas le mot pour dire comme je suis trans puis que je pouvais faire ce changement-là dans ma vie. Fait que ça a été quand même assez révélateur, puis c'est là que j'ai commencé à entreprendre les démarches pour. C'est quand même des grosses démarches.
À 5 ans, tu comprends que t'es peut-être pas dans le bon corps. Rendu au cégep, tu commences réellement à te poser des questions, mais entre-temps là, de 5 ans jusqu'à ce que tu arrives au cégep, ouais. dans quel état émotif t'évolues? Parce que j'imagine que ça doit être difficile d'évoluer en n'étant pas dans le bon corps, en se posant des questions qui sont fondamentalement existentielles. Comment tu vas durant ces années-là?
Mal. Ça a été aussi des suicidaires, à l'automutilation, à l'intimidation. C'est ça. J'en ai vécu plus que ce que j'aurais pu mériter. Attends, parce que on souhaite tous que nos enfants vivent pas ça. Mais
heureusement, tu avais une famille aimante et qui t'encourageait là-dedans, en fait, qui t'appuyait.
Oui, mais j'ai eu un gros suivi niveau psychologue et travailleur social.
C'est ça. Jeune. Puis à partir du moment où tu as vraiment senti que là, tu voulais aller vers la transition, ça a été quoi le cheminement que tu as fait? Finalement, tu as eu des rencontres, j'imagine, avec des médecins, psychologues et tout ça. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été compliqué?
En fait, tu sais, il n'y a pas un guide, là. Fait que tu essaies d'avoir les informations. Puis, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup, dans mon entourage, plus à Québec, de personnes qui. J'ai eu la chance d'être au gris. Donc, il y avait des gens qui avaient vécu des choses comme ça. Fait qu'ils m'ont rien.
C'est quoi le gris?
Oui, c'est ça.
C'est un organisme qui aide, en fait, je pourrais dire, à démystifier l'homosexualité, puis la bisexualité, l'identité de genre. Donc, ils vont dans les écoles. Moi, j'avais eu des bénévoles qui venaient dans ma classe en secondaire 4 environ. C'était juste deux. C'était une femme et un homme qui étaient venus pour nous parler d'orientation sexuelle. Puis ils font ça partout. Il y a le Gris Québec qui fait pour l'arrondissement de Québec, Choisir-Appalaches pour Choisir-Appalaches aussi.
Okay. Donc les gens dans le besoin pourraient contacter cet organisme-là.
Oui. Mettons, moi, j'avais commencé pour un stage, puis j'ai travaillé pour eux. Puis j'avais des gens que j'avais en jumelage, donc je rencontrais des jeunes pour parler avec eux quand que j'étais plus loin dans ma transition aussi. Puis j'ai été dans les classes, même dans mon ancienne polyvalente, j'ai été devant des classes de secondaire 4-5, justement, pour pouvoir parler de moi. Fait que tu sais, c'est ça. C'est vraiment plus pour partager ton histoire un peu, puis comme de faire juste comme, ça existe, puis il y a les ressources aussi disponibles pour aider. Donc,
Au-delà de l'intimidation que tu as vécue, puis de tous les tourments émotifs que tu vivais avant ta transition, si tu n'avais jamais eu à faire ta transition, est-ce que tu penses que t'aurais pu survivre à ça ou c'était un besoin nécessaire pour ta survie?
C'est une bonne question, mais je pense pas. Je pense pas que j'aurais passé au travers.
Aïe!
Ouais. Tellement c'est profond.
Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un mal-être qui est plus profond que tu le penses. Là. Fait que, comme, que jamais tu te regardes dans le miroir et que ça fit un peu avec ce que tu as en tête. Ben...
Il y a comme une distorsion.
Une dichotomie.
Une dysphorie. Écoute, je pense qu'on va tout de suite faire la pause parce que j'aimerais ça après qu'on puisse continuer jusqu'à la fin. Je sens que ça va être intense et intéressant.
Parce que c'est tout un processus quand même. Là.
Oui,
on fait pas ça en se levant un matin.
Oui.
Non, c'est long. C'est
exact. Et je veux parler de ça. Je veux parler également de ce que tu fais toi aussi, Julie, dans la vie. Ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et tout. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs. C'est vraiment hyper intéressant. On va peut-être partir le live TikTok là, durant la pause. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec Julie et Alex. Alex qui a vécu une transition, qui est devenu un homme, qui est en couple avec Julie, la magnifique. Vous êtes vraiment un beau couple et vous avez accepté de venir vous ouvrir ce soir. C'est vraiment très apprécié. Vraiment, merci beaucoup. Et juste avant de parler de la suite de votre couple et des projets à venir, j'aimerais savoir, à partir du moment où tu as pris vraiment la décision, là, où c'était clair pour toi que tu allais entrer dans un processus, bon, d'hormonothérapie, tout ça, quelles ont été les étapes? Parce qu'on a reçu un jeune homme là, qui a voulu transitionner. Il a rencontré comme un psy 3 fois, 2 fois l'endocrinologue, c'était réglé, merci, bonsoir. Et là, aujourd'hui, il constate qu'il n'a pas eu assez de suivi par rapport à ça. Il regrette finalement son changement. Est-ce que toi, tu as fait face à ça? Est-ce que tu considères que ce que tu as eu comme processus était correct?
Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu ailles un peu par toi-même. Tu sais, ils sont pas... Mettons, tu fais des recherches souvent par Internet, tu trouveras pas tout de suite. C'est pas, mettons, aussi accessible, je trouve. Puis c'est bien de même, parce que je pense qu'il faut que tu te fasses outiller puis te faire diriger, justement, fait que de voir un psychologue puis de te faire amener à la bonne place.
Ouais.
Pour moi, ça a été rencontre avec travailleur social, que j'ai eu des lettres de référence pour, oui, commencer l'hormonothérapie.
Et là, tu étais début vingtaine.
Ouais. Okay. C'est quoi? J'ai commencé, en tout cas, 2020.
OK.
J'ai commencé pas mal.
Puis l'hormonothérapie, est-ce que ça se fait avant la rencontre avec le psychologue? Dans quel ordre tout ça se concrétise?
J'imagine que tu rencontres le psychologue qui évalue que tu es apte à recevoir l'hormonothérapie.
Ben en fait, il faut que ça soit, mettons, une personne qui peut faire des lettres de référence pour l'hormonothérapie. Donc, ce n'est pas tous les psychologues qui peuvent te faire une lettre, c'est pas tous les travailleurs sociaux. Il faut être des personnes qui sont spécialisées là-dedans.
OK.
Donc, pour moi, ça a été, justement, j'ai eu accès à un travailleur social qui avait fait mes lettres de référence pour aller en hormonothérapie.
Donc, tu n'as pas eu d'évaluation psychologique pour s'assurer que...
C'était trois rencontres
que
j'ai eues avec. Puis, tu sais, ça dépend de chaque personne. Fait que, tu sais, ça peut que tu en aies plus, ça peut que tu en aies moins. Ils font vraiment pas qu'ils évaluent un peu ta situation, mais ils regardent quand ça a commencé, puis ils regardent vraiment des détails précis, puis ensuite de ça, ben, ils donnent la lettre de référence, puis tu vas chez l'endocrino, puis ça prend, oui, un certain temps avant d'avoir accès, et tu commences les hormones.
L'endocrinologue ne refait pas de suivi psychologique ou quoi que ce soit, il te donne les hormones,
en fait,
et
c'est
parti.
C'est la prescription qu'ils te donnent, puis ils font suivi ensuite de ça, c'est comme, je pense, aux 3, 6, puis un an... font des suivis avec des prises de sang pour être sûr que tout est correct, le niveau est correct dans ton corps, qu'il n'y a pas de...
On s'assure que physiologiquement, ça fonctionne, mais psychologiquement, il n'y a aucun suivi.
C'est à toi de le faire.
C'est à toi de le faire, c'est-à-dire?
C'est à toi de prendre...
Si tu sens le besoin, tu prends rendez-vous avec un psy, autrement, tu as reçu ce qu'il fallait pour te transformer et... Ah ouais!
C'est pas nécessaire. T'sais, moi, j'ai jamais vraiment eu à rencontrer des psys pour ça. Parce que... Pour moi, ça allait de soi. J'étais assez certain dans ma décision.
Oui, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un professionnel qui puisse quand même évaluer ta condition pour s'assurer que tu étais un bon candidat finalement à recevoir de l'hormonothérapie. T'sais, je sais pas là, s'il y a des trucs à évaluer ou par rapport au passé ou je sais pas,
là,
des traumas peut-être ou whatever, là, je sais pas. Mais donc, ça a été aussi simple que ça.
Ouais, ça va vraiment qu'un professionnel avant d'avoir l'hormonothérapie que tu fais ce suivi-là, puis qui évalue un peu de ton enfance, de où ça a commencé, puis qui pose vraiment des questions, tu sais, vraiment pointues pour vraiment savoir comme essayer de te connaître puis de voir comme pour être sûr que tu prends pas la bonne décision, mais oui,
un bout de temps. Ben oui, c'est ça, te challenger, tu sais, s'assurer que c'est quand même un choix qui est pas tant irréversible. C'est difficile de revenir en arrière, là.
Oui, ben c'est sûr qu'il y a des changements qui sont plus difficiles, donc tu sais. Que quand la voix commence à devenir plus grave, ben l'avoir aiguë, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a rien de totalement, je pense, irréversible, mais c'est des choses qui sont difficiles.
Donc, on comprend quand même que le travailleur social ou la travailleuse sociale fait un travail de fond sur l'ensemble de ta vie pour pouvoir te donner accès aux hormones, mais selon ton expérience, est-ce que tu penses que chez certaines personnes, ce serait plus bénéfique d'avoir une relation, d'avoir une séance, d'avoir une petite thérapie avec un psychologue avant d'avoir accès aux hormones? Parce qu'on le voit, ça arrive souvent, il y a des gens qui détransitionnent parce qu'ils sont moins sûrs. Toi, dans ton cas, tu étais profondément convaincu que c'était ça, puisque ça t'habitait depuis l'enfance. Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Ben, je pense que c'est vraiment comme propre à chacun. C'est sûr que, tu sais, oui, le suivi, pour moi, il est quand même important. T'sais, ça reste que les questions qu'il pose, il les pose pas pour rien. Puis, tu sais, oui, moi, ça a été un TS, mais il y a des psychologues aussi. Donc, ça se peut que c'est un psychologue qui, tu sais, sont spécialisés là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il essaie de t'amener vers la bonne direction aussi pour savoir qu'est-ce que tu veux, puis que tu te trompes pas, on pourrait dire. Mais ça se peut que genre il y en a qui vont décider de continuer le suivi, puis tant mieux, parce que ça reste que, tu sais, il y a rien qui coulait dans le béton non plus, puis ça peut changer au fil des années. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense, encore une fois, propre à chacun de savoir comme...
Ouais, mais t'as de l'air assez solide aussi, mais...
Oui, c'est ça, je pense que tu savais, toi, tu le sentais vraiment.
Ouais, puis t'as quand même... On sent quand même que t'as une certaine force tranquille, mais au-delà de l'accès aux hormones, dans la transition... au niveau psychologique, que ce soit personnel et face aux gens qui entourent la personne qui est en transition, ça demeure pas banal aussi. Cet accompagnement psychologique-là, j'imagine qu'il peut être bénéfique pour certaines personnes, parce que quand tu changes...
J'imagine, mais dans son cas...
C'est sûr, le regard des autres change, le regard de la famille change, toute ta vie change.
Mais là, tu étais quand même entouré de gens qui t'accompagnaient dans tout le processus, finalement, tu sais, qui te... t'appuyer. À partir de quand est-ce que t'es passé de elle à lui, à leurs yeux?
Quand je leur ai demandé, mettons, c'est sûr que, tu sais, c'est plus la transition sociale à ce niveau-là, de pouvoir en parler à tes proches. Puis, tu sais, moi, ma famille, ça a été aussi simple qu'à Noël. Je leur ai dit que...
À partir de maintenant.
Je m'en allais là-dessus. Puis, à partir de maintenant, c'était oui. Il. Puis, je devenais leur frère. Puis, je devenais le fils à ma mère.
Ça a été bien reçu par tout le monde.
Ouais.
Wow.
Oui, puis, tu sais, même moi, c'était les enfants qui reprenaient les paquets, qui reprenaient les plus vieux. Puis, tu sais, mon fiole, je suis son parrain. Puis, il sait qu'avant, il y avait deux marraines. Puis, que là, il y a un parrain puis une marraine. Il a de la chance d'avoir vécu ça, là, tu sais.
Et ton prénom d'avant, es-tu à l'aise de nous partager?
Non, j'en parle pas.
Okay.
Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui aime en parler aussi, fait que tu sais,
c'est bon.
C'est comme si c'était une autre personne.
Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme si c'était c'était passé.
Ouais.
Si tu avais à rencontrer quelqu'un, mettons, qui n'était pas dans ta vie, est-ce que t'en parlerais, j'imagine, de ça, ou t'attendrais oui. un certain temps?
Sous l'oreiller.
C'est non, ça. Donc, t'attendrais de connaître en profondeur la personne, mais davantage ouais. la personne qu'à la première date, mettons. T'en parlerais pas à la première date.
Ben, tu sais, bon. Dépendant de ma transition, oui, parce que j'aime être honnête que, genre, la personne que je suis, mais c'est d'aller dans les détails mm-hmm. plus de mon passé, ben, tu sais, ça va être un peu plus long. Là.
Je comprends.
Et au moment où t'entames la prise des hormones, quels sont les premiers changements? Parce que, bon, à première vue, t'as quand même une voix assez grave. Est-ce que t'avais toujours une voix grave comme ça?
Non.
Ça l'a changé à ce point-là?
Ouais. Ouais, il m'a fait écouter... il s'est fait des montages comme vidéo, puis il a pris une vidéo, tu sais, « Bonjour, Alex, première semaine de testostérone. » Après ça, tu sais, je pense que c'est 6 mois,
ah,
un an.
Ah oui?
Puis comme, je croyais pas que c'était mon chum qui parlait, tu sais.
Wow!
C'est fou, là. C'est pas... C'était vraiment une voix... féminine, là.
Wow. Alors, hormis la voix, les changements, ça ressemble à quoi?
Le poil. Le poil, rien que du poil partout.
Est-ce qu'au niveau comportement, t'es plus... est-ce que la testostérone t'apporte un certain... tu sais, parfois plus de d'impulsivité ou de... pas nécessairement violence, là, mais je veux dire, la testo, là, souvent, on dit, là, tu sais, les adolescents, c'est une période où, tu sais, ils deviennent un peu plus... comment dire, obstineux, ils ont plus d'opposition. je sais pas comment dire. On s'entend? On se comprend, tout le monde?
Ouais. Ben oui, puis non, parce que je pense que okay. j'ai eu à mon adolescence cette période-là que moi, je vargeais dans les murs, puis j'étais pas. J'ai eu une bonne crise d'adolescence, là, ma mère.
Ça se peut que t'avais déjà un taux de testostérone élevé. Je sais pas si les médecins ont pu voir ça quand t'as commencé
j'ai
les.
Pas tant regardé
les marches,
ça. Non, non okay. mais tu sais, pour moi, ça a été plus. Tranquillisant, on pourrait dire, parce que pour une fois, je me sentais moi-même.
Wow.
Et non, comme pris avec moi-même.
OK.
Fait que, t'sais,
bien dit.
Ouais, la testo a eu plus un effet apaisant
okay.
que l'inverse. Ouais.
Mais tu sais, moi, j'étais pas là, mais il me raconte souvent que, mettons, avant, le monde disait tu vas être un monstre quand tu vas tomber sur la testo. Comme ça.
C'était ça un peu que je me demandais.
Je pense que t'étais tellement pas bien avec toi-même, Alex, que quand les effets de la testostérone ont rentré, il a fait enfin. Puis que ça l'a calmé au lieu de le rendre encore plus agressif ou impulsif. Mais.
Sentais que tu étais dans le bon. Dans le bon traitement.
Donc, il y a une quiétude qui est retrouvée. La voix change. Les poils poussent un peu partout.
Tu grandis pas, par exemple.
Tu grandis pas.
Au niveau du muscle et tout, est-ce que tu en prends un peu?
Ça se prend, mais c'est quand même assez. Tu sais, c'est sur du long terme, on dit que ça peut prendre au moins jusqu'à 5 ans là, avec les hormones faites un peu le maximum de leur okay. soin.
Au niveau sexuel?
Hein?
As-tu plus de sensibilité au niveau sexuel de ce côté-là? Ou
plus
ça
d'envie
peut...
aussi.
Plus d'envie.
Oui, plus d'envie,
c'est
plus
comme
de libido.
Comme j'ai un petit gars en puberté, là,
ah,
qui
ouais?
a envie à tous les jours.
Ouais, là.
Un petit lapin, là.
On est fait sur la même base, à quelque part.
Julie a souri.
Tu regardes ça?
Oui, ben, tu sais, le pauvre, en plus, il est tombé sur une blonde qui est full anxieuse, qui est plus vieille que lui, puis qui est sur médication pour son anxiété. Fait que moi, tu sais, je suis comme en
perte de libido.
C'est ça. Fait qu'écoute. On essaie de se rejoindre là, dans un juste milieu, mais je suis consciente qu'il est en puberté dans un sens aussi, là encore. Fait que...
Et là, toi, est-ce que tu étais bisexuelle, lesbienne ou hétérosexuelle avant de rencontrer Alex?
Moi, j'étais hétérosexuelle.
OK.
J'avais toujours été avec... tu sais, le typique douchebag, là, joueur de hockey. C'était
ah
le...
oui?
Ouais, toujours, toujours. Puis quand j'ai rencontré Alex, c'est vraiment drôle parce que je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais 2 semaines avant notre première date, on était au drag, une gang, puis on parlait. Pis c'était toutes des filles, tu sais, des personnes qui sont des femmes, qui ont tu sais, lesbiennes. Puis j'étais comme, non, moi, ça m'écœure, un vagin, ça arrivera jamais. Puis tu sais, la vie a le sens de l'humour, finalement, là. Tu sais, c'était comme, C'est ça, j'aurais jamais pensé. Puis tu sais, je me considère toujours pas comme, mettons, bi ou lesbienne, dans le sens où...
Non, parce que c'est l'être qui...
Tu sais, moi, la personne que je vois, c'est un gars, tu sais, il y a de la barbe, tu sais, c'est un gars, là, oh, il a sa grosse voix grave. Puis, fait que, tu sais, au niveau des organes génitaux, ben tu sais, c'est juste, ça vient avec, puis c'est rendu... C'est drôle parce qu'on a eu cette conversation-là récemment, mais tu sais... Les culottes baissées, je le vois plus, moi, que c'est comme hors norme, mettons. Tu sais, c'est comme, c'est rendu normal à mes yeux.
C'est quasiment le fun parce que, veux pas, on se connaît.
Oui, mais c'est ça aussi.
C'est exactement comment, tu sais, donner
ce... C'est ça, mais tu sais, moi, c'était quelque chose qui m'insécurisait quand même. Au début, il m'a vraiment accompagnée là-dedans. Là. Mais ouais, fait que moi, j'étais...
Puis quand t'as rencontré Alex, est-ce que t'étais consciente que c'était un homme qui avait vécu une transition?
Oui, ben en fait...
Ils se connaissaient déjà.
Ben, on se connaissait du drag. Parce que, tu sais, moi, je commençais à performer plus souvent là-bas. Puis là, lui, ben il était barman. Mais
On l'a dit avant la pause, il était tué drag queen.
Oui, exactement. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que dans le fond, son ex-copine, moi, j'étais à l'école avec. Puis elle était quand même out, vraiment comme lesbienne. Fait que quand j'avais vu qu'elle avait un chum, j'étais comme, ben voyons, tu sais, hein, elle est rendue avec un gars. Fait que j'avais comme un peu stalké, avant même que je sois au drag, là, j'avais stalké. Puis j'avais vu que, tu sais, ce gars-là... Il mettait souvent hashtag trans dans ses affaires. Mm. Puis finalement, quand j'étais à Vaudrag, on s'est mis à se parler, j'étais déjà au courant. Mais ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il y avait du staff qui était même pas au courant. T'sais, qu'il avait jamais fait le lien que... Ah ouais, Alex, il est trans, tu sais. Fait que... À quel point tout le monde est là-bas.
Oui, c'est ça.
En partant Alex, quand tu le vois, si tu le sais pas, tu le sais pas.
Non, c'est impossible de savoir.
Impossible.
Sérieux, c'est impossible.
Oui, puis je sais pas si vous êtes à l'aise de donner vos Instagram pour qu'on puisse aller voir les shootings boudoirs. C'est quand même public, là, je pense. Là, mais waouh, c'est magnifique. Là. Vous avez même une vidéo, justement, on en parlait. Parce que Francis fait des shootings, mais également des vidéos. Et vous avez un extrait de ça. C'est tellement beau. Donc, pour aller sur vos réseaux sociaux, c'est quel...
Moi, c'est bar en bas, AP.18.
Ouais. AP.18.
Moi, c'est... Julie, mais J-U-L-E-E-G-M.
Parfait. Allez voir ça, ça vaut la peine, vraiment. Ou sur la page de Francis, il y en a quelques-uns. Quelques shootings boudoir. Parlant de boudoir, comment vous avez trouvé ça, shooter avec Francis?
Ben, personnellement, moi, Francis, j'ai fait beaucoup de shoots avec lui. Tu sais, moi, c'est une personne que je connais depuis, comme je dirais, 2019, peut-être.
OK.
Il m'avait été référé pour le studio de pole où je travaille pour faire un photo shoot.
Tu donnes également des ateliers de pole dancing.
Oui, je travaille au studio parallèle.
Oui.
Ouais, à Québec.
J'ai essayé, hein?
Pas facile,
c'est
hein?
Pas mal plus tough qu'on peut s'imaginer. Faire du pole dancing.
Oh, oui.
Ah non, c'est très acrobatique. Faut être athlétique, là. Faut être...
On le développe.
Ouais, c'est ça.
Moi, je fais tout le temps la blague à mes élèves. Je les dis, moi, avant de faire du pole, je faisais du divan avec des chips, là. Fait que tout le monde peut en faire, mais c'est ça.
Oh non, pour une mise en forme, ça vaut la peine.
Ouais. C'est vraiment rendu un sport aussi.
Ah oui,
on s'éloigne de l'étiquette de danseuse, de bar, de danseuse. Oui,
au studio, c'est vraiment plus vu de manière sportive, là.
Acrobatique.
Mais tout ça pour dire, j'avais booké Francis pour ça. À partir de là, on est devenus vraiment amis, puis chaque fois qu'il offrait des nouveaux services, il est testé sur moi pour monter le portfolio Instagram. Fait que, tu sais, j'avais déjà fait quand même pas mal de shoots avec. Puis, tu sais, ses premiers shoots de nuit, ils avaient fait avec moi. Ses premiers shoots de boudoir, les premiers vidéos boudoir en solo, c'était avec moi. Tu sais, fait que ça a pas mal toujours été. Fait que, tu sais, pour moi, shooter avec Francis, c'était quand même quelque chose de régulier. Mais en couple, avec mon petit monsieur qui en avait jamais fait.
Ouais.
Ça devait être drôle.
Ben, c'était gênant un peu au début.
C'était gênant.
Mais tu sais, c'est... Je veux dire, j'ai pas regardé, mettons, l'appareil. J'ai juste à la regarder, elle. Puis ça, tu sais, après ça, lui, il s'arrange que comme. C'est comme ni vu ni connu. Là, tu le vois pas tant en bout de ligne. Fait comme. C'est vite que, genre, t'es capable d'être à l'aise. Puis de prendre, tu sais, vraiment des belles photos. Là, genre, Francis, il est bon là-dedans de pouvoir vraiment te mettre dans. À l'aise. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était rapide, là. Mais ouais.
Puis à quel point ça t'a aidé, parce qu'on en parlait avec Francis quand il était de passage ici cette semaine. D'ailleurs, vous pouvez aller réécouter l'entrevue sur le site. À quel point ça t'a
très
aidé
intéressant.
À t'émanciper de ta transition, parce que c'est un outil aussi de confiance en soi. C'est ce que Francis nous décrivait. Toi, ça t'a-tu aidé à t'approprier un peu?
Ben, je pourrais pas nécessairement dire. Je veux dire, je suis quand même à l'aise avec mon corps, mais de pouvoir comme l'exposer sur des réseaux de même.
C'est la première fois?
Oui, ben c'est sûr que des petites selfies de moi en bedaine, on s'entend que c'est ça, mais tu sais, d'être là, genre vraiment comme avec quelqu'un en boxeur, comme les gens voient les différences quand même, ben c'est sûr que c'était une expérience qui était quand même très différente, puis que
Magnifique résultat, en tout cas.
Ouais.
Vraiment. Vous êtes bon, on sentait la chimie.
On en a trois, là, de développer au-dessus de notre lit.
Magnifique. Et là, vous souhaitez fonder une famille.
Ouais.
Donc, on en a parlé rapidement, là, avant la pause. Vous allez aller vers une banque de donneurs. Est-ce que vous allez aller en ligne ou vous avez déjà des donneurs ici au Québec
potentiels? Nous, en ce moment, on est comme dans le processus où la médecin de famille a envoyé la référence pour nous envoyer en fertilité.
OK.
On veut pas faire avec une banque de donneurs, mais on veut quand même aller avec les banques... les banques legit, là. Oui. On veut pas aller sur Marketplace dire « Salut! »
Ah non, parce que je connais une maman solo qui est venue en saison 1. Non, mais il y a des sites.
Ramasse dans le congélateur de Marcel Abatteuse.
Mais il existe réellement des sites où tu magasines littéralement ton donneur. Tu choisis
les caractéristiques,
son passé, sa génétique.
Mais ça, c'est comme ça aussi dans les banques reconnues. Là.
Oui, exact.
C'est vraiment ça. Fait que pour nous... on a décidé de se mettre sur la liste plus tôt que tard parce que...
Bonne idée.
Tu sais, veux pas, Alex a 25 ans, mais moi, je vais avoir 32 ans vraiment bientôt.
Et là, c'est à partir de maintenant que tu dois commencer à faire congeler tes ovules.
Oui, ben c'est ça. Médecins. Fait que là, on est comme dans... tu sais, nous autres, à 35 ans, ils nous considèrent gériatriques, là, en fertilité.
Ben, c'est parce
là.
Que notre banque de réserve ovarienne diminue considérablement.
Ouais, ben
et la maman solo que j'avais reçue justement en entrevue à l'âge de 32 ans avait une banque de réserve ovarienne d'une femme de 47 ans. Donc, il était temps là, qu'il se passe quelque chose parce qu'elle n'aurait pas pu.
Exactement. Fait que là, nous, on attend le premier appel pour la première consultation. En fait. Puis à partir de là, tu sais, normalement, nous, ce qu'on s'était fait dire, c'est entre le temps où tu tombes sur la liste d'attente pour la première consultation, c'est comme un 6 mois. Puis après ça, pour avoir l'insémination, là, c'est qu'il y a à peu près quasiment un an encore après.
Fait que, tu sais, ça va déjà faire quelques années que vous êtes ensemble quand.
Oui, ben c'est ça. Fait que.
Ça va débuter.
On trouvait que c'était mieux de se mettre sur la liste plus tôt, puis que s'il y a quelque chose avec notre couple, ben tu te retires de la liste, puis c'est tout, versus vouloir comme s'inscrire quand là, on en veut là.
Et ça, il y a des frais liés à tout ça, j'imagine.
Ouais.
Ouais. Quelques milliers de dollars quand même.
C'est
cher.
C'est ça.
Fait que vous êtes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une décision.
Ouais. Ben, tu sais, en même temps, on. Alex vient quand même d'une famille où ils sont 5 puis il a 7 neveux nièces. Fait que, tu sais, pour lui, je pense que c'est quelque chose qui est. Il veut une famille, là. Je veux dire, c'est quelque chose, je pense, qui n'était pas vraiment négociable pour toi.
Non, c'était au moins une fois un enfant, là.
C'est ça. OK.
C'est depuis longtemps.
Moi, j'ai passé quand même, j'ai étudié comme éducatrice en garderie, tout ça, à la base, j'ai travaillé là-dedans. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours dit, oh, j'aimerais avoir une famille, mais tu sais, si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais là, avec Alex, tu sais, je le vois aller avec les enfants de nos amis ou avec ses neveux nièces. Puis je suis comme.
Ça.
Tu sais, mes ovaires crient bien raides, là. Fait que. C'est ça. J'ai bien hâte, là, de. Puis, tu sais, quand je le vois aller aussi, j'ai l'impression qu'il y a un instinct parental. Moi, souvent, je dis ça, là. Tu sais, je pense que l'instinct parental d'une personne qui est née avec un utérus est un peu différent. Puis, des fois, j'ai l'impression, tu sais, je le vois aller, puis je suis comme, OK, clairement que. En tout cas, il est fait pour avoir des enfants. Fait que.
Le combo des deux, t'as le. Il y a l'instinct, puis il y a le côté protecteur et du papa. Exact.
Dans votre vie de couple, au quotidien, faites-vous face à des défis considérant que, ben, fondamentalement, vous n'êtes pas un couple conventionnel. Faites-vous face à des défis par rapport à votre expérience passée que vous avez jamais vécu?
Hey.
Bonne question.
Ben, je pense que c'est plus les traumas passés qui nous suivent, puis qu'il faut défaire.
Ouais.
C'est comme...
Comme dans tous les couples, hein, ça.
Oui, exactement.
Ça
mais tu sais, Alex, je pense qu'il a souvent été... le premier mot qui me vient, c'est persécuter, mais c'est pas ça. Mais tu sais, dans ses relations, mettons, les gens qui étaient comme... Ben moi, je suis lesbienne, si tu transitionnes, je suis pas tant down. Ou ben moi, je suis hétéro, fait que si tu transitionnes pas au complet, ben je suis pas down. Fait que tu sais, je pense que là-dessus, des fois, il y a des petites insécurités, tu sais, qui se présentent de comme... Ou même pour... Tu sais, des fois, il va me dire, ouais, mais pourquoi t'es pas avec un gars normal? Mais tu sais, pour moi, il reste un gars normal. Là,
oui, c'est ça. C'est juste la partie génitale, dans le fond, qui...
Exactement.
Puis je veux dire, au pire, on s'entend qu'il y a plein d'autres possibilités. Là.
Exactement. Écoute, il y en a plein, là.
J'imagine qu'on peut user d'originalité.
Ah oh, oui. Mais ça t'inquiète, ça, au quotidien, Alex?
Hein?
Ça t'inquiète, ça, le fait que tu penses que Julie, elle soit pas avec un homme normal?
Ouais, ben tu sais, c'est comme elle dit, c'est jamais assez... Beaucoup mes inquiétudes du passé qui ont fait en sorte que...
C'est pas fondé, là. Il y a rien dans la relation qui montre ça, mais toi,
non, c'est ça
se rentre dans toi. Éventuellement, ça va finir par...
Oh oui, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai beaucoup... C'est un travail qui se fait constamment sur soi. On peut pas, comme tu disais tantôt, un suivi, ça y est psychologique, ça y est par rapport à la transition ou autre. ça reste que de consulter, ça l'aide toujours. Puis ouais. Moi, je suis là-dedans d'essayer de comme justement libérer certains traumas que je peux avoir eu avant ma transition, que c'est pas nécessairement en lien avec.
À l'inverse, moi, le fait qu'il ait subi une transition fait de lui le gars parfait pour moi, parce que je sais qu'il comprend tout.
Tellement. Les SPM.
Non, mais c'est vrai,
mais
pareil.
C'est un bon point,
même,
ça.
Même, oui. Moi, j'étais une personne qui, envers l'homme, je voulais tout le temps comme être parfaite, belle, toujours désirable, tout ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais pas me faire les jambes, là, ça serait jamais arrivé dans mes anciennes relations. Tandis qu'avec lui, je suis comme, il sait qu'une fille, ça a du poil, ses jambes. Mm-hmm. Il sait qu'une fille, ça pue de la bouche le matin. Il sait qu'une fille, ça va aux toilettes, tu sais. Moi, j'avais des...
Non, mais c'est vrai qu'on s'en fait parfois, oui. Puis pour rien, là. Vous nous le demandez pas, là, mais on se met
mais
cette pression-là.
Moi, au secondaire, je m'appelle, là, c'était comme, non, une fille, ça va pas faire caca. Mm. Moi, ça m'avait marqué, puis là, j'étais tout le temps comme, non, une fille, faut pas qu'il sache que je fais ça, tu sais. Il sait, lui, il l'a été. Tu sais, fait que cette espèce d'insécurité-là, je l'ai pas avec lui.
Oui.
Je suis 100% à l'aise avec moi-même, puis c'est ça son pouvoir magique, dans le fond. Puis c'est ça que j'aime bien mieux que d'être avec, comme il dit, un gars normal, mettons.
Puis vous êtes un couple monogame.
Oui.
Vous n'êtes pas couple ouvert, vous n'êtes pas polyamoureux, quoi que ce soit.
Oh, non,
là-dessus, on est les deux, c'est la même longueur d'onde.
Ouais,
OK.
Ouais.
Génial. Et là, vous travaillez ensemble en plus. Ça ressemble à quoi, votre quotidien?
Là, parce que trois semaines, il est en convalescence.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est différent, mais tu sais, moi, au drag, je ne suis pas considérée comme une employée en tant que telle, parce que les drags, nous autres, c'est contractuel. Fait que c'est okay. Des bookings ponctuels. Fait que tu sais, moi, je suis là à peu près... peut-être 4, 5, 6 soirs par mois.
Ah, je comprends.
Ça varie d'un
mois
à l'autre.
Mois à l'autre. Des mois, je vais être là comme là, ça va faire deux fins de semaine de suite que je suis là vendredi, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. T'sais. Mais sinon, il y a des mois, je vais être là deux fois.
Okay.
C'est vraiment ponctuel. Fait qu'on n'a pas de temps à s'endurer au bar.
Non, puis ça reste que quand on va travailler, ben, t'sais, c'est ça. Si moi, je travaille derrière le bar, des fois, c'est à la scène, je vais aller regarder un peu ce qu'elle fait. Oh. Mais tu sais, ça reste que ça nuit pas, mettons, à notre vie, genre de couple non plus, qu'on travaille au même endroit, parce que c'est pas du 24. Tu sais, on n'est pas genre ensemble les 7 jours, puis à faire notre chiffre, un 8 à 5. Là, on est des fois ensemble, puis ça cause pas de problème.
OK.
Ouais.
Puis, pour être drague, mm-hmm. C'est la base. Mettons que je voudrais essayer ça, là. Ce serait quoi le. Qu'est-ce que je devrais savoir?
Prépare ton portefeuille.
Ah oui, hein? Mm-hmm. Les costumes, le maquillage.
Terrible. perruque, tu sais, parce que c'est niaiseux, oh oui. Mais comme. Mettons que je suis là, dans la fin de semaine, je fais trois shows. Mais par show, je fais au moins trois tounes.
Trois costumes.
Trois costumes, trois perruques, trois tounes. Mais là, c'est là trois fois dans la fin de semaine, tu veux pas faire trois fois les mêmes. Fait que là, t'es rendu à neuf.
Ouais, mais.
Mais là, c'est là la semaine prochaine, tu vas rechanger.
T'es-tu payé pour ça?
Oui, mais on est payé. La plupart des drag queens te diraient que est-ce que le salaire équivaut? Peut-être pas.
À Québec, t'es payé.
Oui. Okay. Mais à Québec, on est gâtés, honnêtement, versus ailleurs.
Ah ouais?
Ouais.
Mais c'est comme la lutte, c'est comme le théâtre, c'est comme, tu sais, ils sont payés, mais en même temps, t'as des dépenses en lien
oui,
avec.
Trois exactement. Performances, mettons, dans un week-end, peux-tu payer ton loyer avec ça?
si je suis au bar trois fois par semaine, oui.
Okay.
Je pourrais. Est-ce que je peux manger? Peut-être pas, mais je paye mon... L'hypothèque va être payée.
Ah, mais ça vient après, hein, de toute façon.
Mais là, c'est ça, t'enseignes également deux jours au studio parallèle.
Oui, bien, en fait, moi, c'est vraiment varié. Là, deux jours, okay. Surtout... en ce moment, moi, j'ai recommencé l'école en design de mode.
Oui, fait que, c'est vrai, t'es couturière aussi.
Oui, fait que pendant les sessions d'école, c'est deux jours, j'étais à l'école, puis je travaille surtout soir, nuit, fin de semaine, la totale.
OK.
Au studio de Paul, c'est surtout de soir la semaine, moi, que je travaille.
C'est un rythme de vie que vous voulez garder comme ça malgré la famille?
Non. Mais la drague, j'aimerais ça continuer, mais pas tout le temps. Mais non.
OK. Puis toi, Alex, là, on a compris que vous vouliez avoir une famille. Vous travaillez essentiellement dans le même milieu. Alex, tu viens de subir une opération, somme toute, assez majeure. Pour toi,
En plus de la mastectomie.
Pour toi, là, tu sembles avoir atteint un certain équilibre. D'après ce que tu nous racontes, commencer les hormones il y a 3 ans environ. Comment tu vois le futur? Est-ce que tu es bien dans le corps que tu as et dans la personne que tu es aujourd'hui ou il y a encore des étapes à obtenir pour que tu atteignes un certain équilibre?
Je dirais que je pense qu'en ce moment, je pourrais juste tout arrêter ça de moi-même puis tout est correct. Là. Je pense que j'ai atteint mon bien-être, que je pourrais dire, là, comme ma zone de confort pour me sentir bien dans ma vie de tous les jours. Est-ce que ça va être le cas dans 5-10 ans? Je sais pas, parce que la vie change
On évolue.
Ouais. Fait que, tu sais, pour là, en ce moment, oui. Genre, je me sens bien, puis je pense que j'ai atteint le niveau ce que je voulais atteindre. À voir pour plus tard, c'est ça.
Puis c'est ça l'important.
Ouais.
Mais
ouais,
tellement. Tu te sens vraiment bien. On le sent. Moi, quand j'ai vu les photos puis la vidéo, j'ai senti vraiment la chimie. Francis m'a dit la même chose. Donc, je pense que vous êtes... c'est déjà, ça n'a juste pas de bon sens comme ça a passé vite. C'est déjà la fin, mon Dieu. Donc, on peut vous souhaiter que du bonheur pour la suite, de belles choses à venir. Oui. Vous êtes vraiment un couple inspirant. Tout est possible. Quand il y a de l'amour...
Ah oui, oui.
Tout est possible. Un petit bébé, vous allez revenir nous jaser ça quand vous allez avoir...
Oui, on espère ça... bien. Écoute, on croise les doigts que ça arrive plus tôt que tard.
On va-tu pouvoir choisir son nom?
Check l'autre qui a donné les privilèges.
On a déjà de la misère là, à trouver des noms. Là.
On vous a invité à la radio, mais semble que ce serait la moindre des choses.
Mais là, parlant de ça, toi, t'as changé ton nom à l'état civil. Est-ce que ça a été bien compliqué, ce processus-là?
Ouais, ben c'est...
En pas long, là?
Ouais, c'est quand même long parce que c'est plusieurs... Tu sais, tu te rends pas compte des fois que tu sais, faut que tu ailles jusqu'à la caisse, jusqu'à la banque, jusqu'à ta carte de crédit, jusqu'aux impôts quand tu reçois encore comme
le
récemment.
Le compte d'hydro, puis tout, là.
Récemment, je recevais encore mes lettres d'impôts à mon ancien nom. Fait que tu sais, m'emmener, t'es comme, faut que tu changes tout ça. C'est que c'est juste que qu'est-ce qui est long, c'est de le faire à toutes les places où que ton nom existe. Mais comme.
OK. Mais à l'état civil en tant que tel, c'est pas le processus qui est long et compliqué.
C'est donc des papiers à remplir, puis t'envoies ça, puis à un moment donné, t'es renvoyé.
Un délai de combien de temps, mettons, à partir du moment où tu fais ta demande?
Ça fait un petit peu longtemps que je l'ai fait. Puis tu sais, j'ai commencé en 2020. 2020, c'était la COVID, donc tout était long.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a un nouveau certificat de naissance?
Oui.
Ah oui.
Mais c'est ça la première affaire qu'ils t'envoient.
C'est vraiment comme une nouvelle vie.
Oui. Ils disent que c'est accepté, puis ensuite, ils t'envoient un certificat de naissance, puis un coup que tu l'as, ben, après ça, tu peux
permis
commencer.
Permis de conduire, assurance maladie.
Un coup, le nouveau certificat de naissance, tu peux commencer
mais
un peu partout.
Mais ça se peut-tu que c'est l'assurance sociale qui renvoie pas la carte?
Ben moi, j'avais tout reçu.
Ah, OK. Ouais. Parce que quelqu'un récemment qui m'a dit ça, que ça, c'était plus compliqué, mais...
Ben, ça, je sais pas. Moi, je sais pas ce que j'ai fait dans mes papiers. J'ai tout coché, puis ils m'ont tout envoyé ça, puis... Ouais. C'est juste, comme je dis, compliqué, vu que c'était pendant la pandémie, donc c'était, tout était très long.
OK. Et
c'est pour ça que je peux pas me référer à aujourd'hui, c'est vraiment long, parce que tout a repris le cours de sa vie, donc...
Alex et Julie... Merci d'avoir accepté cette belle invitation. Ça a été vraiment un plaisir de jaser avec vous deux, puis vous êtes bienvenus quand vous voulez, vraiment. Là, c'était super intéressant, vraiment.
Un immense merci.
Merci de vous être ouvert, c'est très apprécié. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. C'était La Sexploratrice. Je vous souhaite un magnifique week-end et on se dit à la semaine prochaine.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.